Sur efficacement vos projets en toutes circonstances grâce à une épargne sécurisée Suno Assurance qui vous propose priorité santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Priorité santé est aujourd'hui à Bordeaux à l'occasion de la 9e conférence de l'AFRAVI, l'Alliance francophone des acteurs de santé contre le VIH et les infections virales chroniques. Un rendez-vous au moment où les traitements contre le VIH-Sida ont progressé avec, selon l'OMS dans le monde, plus de la moitié des adultes infectés sous antirétroviraux. Un rendez-vous alors que l'Afrique, elle seule, compte plus de 25,5 millions de personnes séropositives et que le continent concentre les deux tiers des nouvelles infections au niveau mondial. Accès au traitement, connaissance de son statut sérologique, recherche, ces questions essentielles sont au centre de ce rendez-vous de Bordeaux où aujourd'hui nous avons choisi de relayer l'action de ces associations, de ces organisations qui s'engagent sur le terrain, ces acteurs de la société civile qui accompagnent les malades, mènent des actions de prévention et lutte contre la stigmatisation. Mais au-delà de cet engagement, ces organisations collectent aussi des informations pour améliorer la prise en charge. Elles ont créé des observatoires de veille citoyenne, véritables vigies implantées dans la communauté qui permettent de pointer les obstacles, de saluer les efforts et surtout d'émettre des recommandations concrètes pour améliorer la qualité des soins. Priorité santé à Bordeaux à l'occasion de l'AFRAVI avec le soutien d'Expertise France à travers l'initiative 5%, contribution de la France au Fonds mondial pour renforcer l'impact des programmes de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Et avec nous au Palais des Congrès de Bordeaux, des représentants d'organisations, d'acteurs de terrain. On commence par vous, Madame Salamata Nyandou-Sido, bonjour.
Bonjour,
vous êtes chargée du projet Observatoire communautaire sur l'accès aux services de santé au Niger. Votre réseau Réni Plus travaille sur l'accompagnement psychosocial. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Oui, merci. Donc le Réni Plus, c'est le réseau nigérien des personnes vivant avec le VIH-Sida. C'est une organisation de la société civile qui a été créée en 2005. Et notamment dans le cadre de la lutte pour la disponibilité des ARV et l'accessibilité des ARV aux patients vivant avec le VIH-Sida au Niger.
Merci beaucoup. À vos côtés, Simon Caboret, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur exécutif du réseau pour l'accès aux médicaments essentiels, le RAM, au Burkina Faso, le RAM qui milite donc pour ce droit à la santé.
Effectivement, nous sommes une structure qui est fortement engagé dans le plaidoyer sur les politiques de santé pour permettre l'accès des populations, surtout les plus vulnérables, aux services de santé.
Et Fogito, un bonjour, président de Positive Generation au Cameroun. Votre organisation s'engage pour lutter contre les discriminations notamment.
Oui, bien évidemment, Positive Generation a été créée il y a 20 ans et c'est une organisation qui milite pour la santé et les droits humains. Et j'en suis le directeur exécutif.
Également avec nous, Florent Maréchal, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable des programmes Santé Solidarité à Solidarité Sida, plus de 20 ans d'existence et des partenaires à travers le monde entier.
25 ans effectivement l'année dernière et nous avons plus de 80 partenaires en France et dans le monde. On est un petit peu atypique dans le paysage associatif français puisqu'on est à la fois organisateur de grands événements de solidarité comme le festival Solidays et nous soutenons plus de 80 partenaires pour des programmes à la fois de prévention jeune mais aussi des programmes d'aide aux malades ou d'appui technique ou des programmes qu'on va lancer d'observatoire.
RFI. Alors, 9e édition de l'AFRAVI, hein, ça nous donne l'occasion de vous rencontrer, vous qui portez dans différents pays des projets citoyens pour lutter contre le VIH-Sida. Et au-delà des actions, vous avez donc choisi de vous donner les moyens de contrôler, aussi d'améliorer l'action sur le terrain. Pour cela, des dispositifs ont été mis en place. On va commencer par définir ces outils qui reposent sur des équipes, sur des modes opératoires aussi. Les choses sont assez différentes d'un pays à l'autre. D'abord, Simon Caboret, au Burkina Faso notamment, quelle définition donner à ces observatoires ?
Nous considérons l'Observatoire comme un dispositif de veille citoyenne qui permet aux usagers des services de santé de remonter les insuffisances dans le système, notamment les cas de mauvais accueil, d'indisponibilité des services ou différents types de blocages, et qui servent à alimenter l'interpellation des décideurs et l'orientation des décideurs pour la prise de décision. Donc c'est, pour nous, c'est des outils de veille citoyenne et des outils d'aide à la prise de décision.
Vous les avez mis en place il y a combien de temps maintenant ?
Nous les avons mis en place maintenant autour de 7 ans que ça existe. On les a démarrés spécifiquement dans la lutte contre le VIH-SIDA et au fur et à mesure, on est en train de l'étendre à tout le système de santé.
Donc y compris par exemple tuberculose et paludisme.
Bien sûr. Et bien sûr même les politiques liées à la santé de la mère et de l'enfant, au droit à la santé en général.
Foggy Foggito, même définition, collecte, synthèse, proposition, trois axes de travail. Justement, Positive Generation, depuis combien de temps vous avez mis en place ces observatoires ?
Il faut dire que Positive Generation, je crois, est l'organisation pionnière dans cette région depuis 2005-2006. Et comme l'a dit Simon, nous sommes un dispositif, nous portons la voix des usagers et en même temps, nous contribuons à la prise de décision. Nous nous définissons plus comme un thermostat qu'un thermomètre. C'est-à-dire que nous ne prenons pas seulement la température, c'est-à-dire le point de vue de l'usager, mais nous aidons les politiques publiques à prendre la décision idéale, la décision, la solution nécessaire ou idoine pour que le patient ou l'usager des services ait accès aux services de manière équitable.
Vous dites précurseur, ça fait combien de temps ?
Depuis 2006.
Alors, les observatoires réunissent des renseignements sur toute une série d'éléments stratégiques pour la prise en charge. Salamata Nyandou Sido, votre observatoire, lui, se trouve au Niger. 3 ans d'existence, on peut dire que c'est le plus jeune autour de cette table. Qui est chargé de recueillir les informations ?
Les informations sont recueillies par des accompagnateurs psychosociaux et qui ont été placés par le UNIP au niveau d'un certain nombre de formations sanitaires. Donc, ils sont des agents collecteurs dans le cadre du dispositif de veille citoyenne, comme l'a précisé M. Simon.
Ce sont des bénévoles ?
Ce sont des bénévoles, mais ils reçoivent quand même des frais qui leur permettent de faire le déplacement entre centres de santé et aussi de communiquer avec nous et de transmettre aussi les informations recueillies, de transmettre les outils au niveau de l'OCAS à Niamey. Donc, ils envoient via les transports en commun.
Et il y a un moment de formation, justement, avant qu'ils interviennent sur le terrain. Comment ça se passe ?
Oui, ils sont 27 agents de collecte qui ont été formés avec l'appui donc, du RAM, le réseau accès aux médicaments essentiels du Burkina Faso, qui coordonne les activités des observatoires au niveau du Niger, de la Guinée et du Burkina Faso.
Vous dites accompagnateurs psychosociaux, vous les appelez des collecteurs, vous les appelez comment ? C'est quoi le nom pour les désigner, ces personnes ?
Voilà, les accompagnateurs psychosociaux, donc ce sont des membres du RENIP+, qui ont été placés par le RENIP+, au niveau des formations sanitaires, pour accompagner les nouveaux cas, les nouveaux patients qui viennent et qui ne savent pas s'orienter, qui ne savent pas où aller, qui sont un peu désemparés. Ils sont chargés de les mettre en confiance. Du coup, nous avons reposé nos activités de collecte sur ces personnes-là.
Et on imagine ce qui aide, c'est justement qu'ils soient au plus près des patients, au plus près des personnes qui vont justement dans ces centres de soins. Parce que Foggy Foggito, on imagine que c'est très important d'établir un rapport de confiance.
Tout à fait. Le rapport de confiance établi déjà par ceux qui sont présents sur les sites, mais aussi également par ceux qui sont chargés comme nos dispositifs de pouvoir rapporter ce qui est bien en termes de bonne pratique et aussi ce qui ne va pas pour essayer d'apporter la solution. Voyez-vous, quand un usager, un patient va dans un service de santé et qu'il puisse nous recontacter après pour donner son point de vue sur le service qu'il a reçu, si après il ne voit pas de changement, il dira, je ne vais plus vous donner les informations, je ne vais plus observer et vous rapporter parce que vous n'avez pas contribué à ce que la décision soit prise, ce qui est un changement. Donc aussi, cette confiance est mutuelle, autant pour l'usager qu'autant pour nos dispositifs que nous avons mis en place pour recueillir justement ces dysfonctionnements, bien ces bonnes pratiques et les diffuser et le partager vers qui des droits.
Justement, pour bien comprendre le fonctionnement, Foggy Foggito, à quelle fréquence il y a des retours ? Et il y a justement une sorte de bilan, on arrête un petit peu les compteurs, les collecteurs nous ont donné les informations, on va regarder ce qui se passe et là, on va faire des recommandations.
D'abord, il n'y a jamais de stop. Il n'y a jamais de stop parce que au moment où nous parlons, les gens sont en train d'observer. Mais maintenant, dans le flot de données que nous avons, nous essayons de prendre une période précise pour pouvoir les rapporter. Par exemple, au Cameroun, nous avons un dispositif qui rapporte toutes les semaines. Tous les mardis, on diffuse ce qui rapporte ce qui s'est passé la semaine dernière. Il y a un autre dispositif qui diffuse tous les trimestres, qui permet que, justement, parce qu'en fonction de la sensibilité des sujets qui doivent être rapportés, prenons le cas de la disponibilité des antirétroviraux.
Là, il faut que ce soit très rapide.
Il faut que ce soit très rapide. Maintenant, parfois, sur le suivi des politiques en elles-mêmes, ça peut prendre un peu plus de temps parce que, comme le disait Simon, on prend aussi le temps d'avoir une démarche locale pour savoir comprendre quel est le dysfonctionnement, quel est le type de plaidoyer, quel est le texte qui ne va pas pour pouvoir le rapporter au plus haut niveau.
Florent Maréchal, dispositif d'observatoire communautaire, hein, c'est un projet qui vous intéresse particulièrement et d'ailleurs vous allez vous lancer un petit peu dans l'aventure. Pourquoi être allé vers ces observatoires ?
Alors effectivement, on va lancer un programme avec plusieurs observatoires sur 5 pays, Mauritanie, Maroc, Égypte, Tunisie et Liban. L'intérêt, il vient d'abord de la confiance qu'on a vers les acteurs communautaires. Nous, ça fait plus de 20 ans qu'on soutient des programmes, et notamment des programmes portés par des acteurs communautaires, parce qu'ils jouent un rôle à la fois essentiel, on le sait, dans la prévention, dans la prise en charge des personnes, mais aussi dans leur rôle de monitoring, de surveillance et de lanceurs d'alerte pour identifier des difficultés, des obstacles dans le parcours de prévention, de prise en charge, qui n'est pas forcément visible et qui n'est pas forcément identifié par des acteurs publics, par exemple. Et donc, pour nous, c'est quelque chose qui est important parce qu'on croit beaucoup dans ce mécanisme-là et on est convaincu que pour améliorer la prise en charge derrière la couverture et tout ce qui en résulte, les acteurs communautaires sont les mieux placés pour faire remonter un certain nombre d'informations avec une veille citoyenne et derrière pouvoir influer sur les stratégies. Et d'ailleurs, ça a été dit, c'est-à-dire que c'est pas dans une posture qui va être négative, au contraire, une posture positive, constructive, où les acteurs communautaires à la fois identifient et savent comment répondre aux problématiques.
Avec une dimension de conseil, on l'a bien compris, et vraiment cette dimension d'efficacité, parce que parfois, quand on se lance dans des politiques de santé globale, comme ça, Florent Maréchal, on a un petit peu l'impression d'avancer à l'aveugle. Là, on a des retours point par point, très concrets, c'est très important, même après quand on doit justement solliciter des moyens supplémentaire de dire voilà, on a du résultat.
Exactement, point par point, site par site, lieu par lieu et personne par personne, parce que c'est ça, on part des bénéficiaires et c'est ça le plus important. Et je trouve que c'est d'autant plus important que c'est aussi une maladie qui touche particulièrement des populations vulnérables. On sait que déjà en elle-même la maladie stigmatise, mais en plus elle touche des populations qui dans beaucoup de pays dans le monde sont stigmatisées, ne vont pas forcément vers le soin et ne sont pas forcément des personnes qu'on va consulter, qu'on va contacter. Je parle notamment dans les dispositifs publics et donc souvent ces personnes-là, les seules ressources qu'elles trouvent, les seuls établissements ou centres vers lesquels elles se dirigent, ce sont les centres portés par les associations. Donc c'est extrêmement important que derrière, justement, en consultant toutes ces personnes-là, en faisant remonter ces informations, derrière, on influe sur les stratégies et donc on est plus efficace.
Alors une question qui vous concerne tous les trois, c'est celle de la fiabilité des informations. On a dit un rapport de confiance qui se fait entre le patient et le collecteur, mais comment savoir que le collecteur, question un peu naïve, comment savoir que ce collecteur travaille sérieusement? Je vous donne d'abord la parole, Simon Cabouret, on ne vous a pas beaucoup entendu.
Je pense que la fiabilité des informations est un point très capital pour la crédibilité d'un observatoire. Ce qui fait que nous procédons beaucoup à la multiplication des sources de collecte des données, qui nous permet de faire des triangulations pour être sûr que l'information qu'on nous donne est juste. Comme Madame Sido l'a expliqué tout de suite, nous avons effectivement des accompagnateurs psychosociaux qui collectent au quotidien les informations. Ensuite, nous avons un responsable de l'association qui passe un temps pendant le trimestre, au cours du trimestre, pour vérifier effectivement les informations. Mais nous avons également des canaux indépendants qui permet à des à tout usager de toucher directement le niveau central de l'observatoire au cas où effectivement il est victime de
plusieurs
de,
sources en fait.
Plusieurs sources. Voilà, on utilise des lignes vertes, on utilise des émissions radio citoyennes, on utilise les réseaux sociaux. Et ça nous permet de trianguler les informations et être sûr que l'information qu'on nous envoie est crédible et qu'on peut l'exploiter dans notre interpellation.
Fogué Foguito, est-ce que vous avez eu des exemples où on a constaté un manque de fiabilité sur le terrain que vous avez ensuite corrigé ?
Oui, il est arrivé des cas où la personne qui observe était en même temps l'auteur du dysfonctionnement. Et justement, en croisant les données, parce qu'il faut voir les dispositifs qui sont mis en place pour permettre chaque fois le croisement. Nous avons dans des sites 4 observateurs qui ne se connaissent pas, au moins. C'est-à-dire, quand vous dites qu'il y a eu un dysfonctionnement à 10h10, on peut vérifier sur l'autre observateur, site 3.
C'est l'anonymat est volontairement institué.
Institué. Qui ne se connaissent pas, en dehors de l'animatrice psychosociale qui est sur le site. C'est-à-dire, quand la sentinelle nous dit qu'il y a eu rupture vendredi, on dit quel protocole ? Il dit de telle heure à telle heure, il y avait rupture. Une autre sentinelle va nous dire non, quand je suis arrivé, il n'y avait pas rupture. Ça veut dire non, c'est non, on peut s'y conscrire exactement le moment du dysfonctionnement pour mieux le rapporter. Parce que nous sommes conscients que ce que nous faisons est tellement attaquable. Vu le fait que nous ne sommes pas du système régalien, nous sommes un système indépendant. Donc, notre indépendance ne peut exister que si nous sommes sûrs, nous mettons davantage l'accent sur la fiabilité des données que nous collectons pour être sûr qu'on ne va pas nous opposer à autre chose.
Simon Cabouret, on a compris le côté très important de la confiance pour que les informations remontent. Malgré tout, est-ce que ça fait parrainer une certaine suspicion sur certaines structures de santé où les gens ont un petit peu l'impression d'avoir un œil derrière eux qui est en train de les espionner ?
Bon, je pense que c'est pas le cas spécifique des observatoires. Je pense que on est tous dans des systèmes démocratiques où le citoyen est appelé à suivre l'action publique. Et quand on le voit, que ça soit en Europe ou en Afrique, ça n'a jamais été toujours facile. Tous ceux qui exécutent n'aiment pas sentir qu'il y a quelqu'un qui regarde et qui critique.
Surtout un contre-pouvoir comme des organisations, des associations, voilà. De la société civile.
Malgré notre bonne foi, malgré la fiabilité des données, et bien sûr, il y aura toujours des gens qui vont contester, remettre en cause. Mais en réalité, ce n'est pas lié à la fiabilité du système, mais c'est lié beaucoup plus à la sauvegarde des intérêts. Et aussi, beaucoup de gens ont intérêt à toujours travailler, à ternir l'image de ces observatoires pour pouvoir continuer les mauvaises pratiques qu'elles font. Parce qu'il y a beaucoup quand même d'intérêt. Parce que quand vous prenez, par exemple, le racket des patients dans les centres de santé, si vous partez, vous essayez de mettre fin à ça, vous touchez bien sûr aux intérêts de ces gens. Et ces gens aussi vont réagir avec des contre-coups et on les gère autant qu'on peut, mais il faut se le mettre à l'esprit, quoi.
Donc c'est un exemple concret, par exemple, des mauvaises pratiques, la corruption, ce genre de choses. Justement, on a établi un petit peu le cadre. Maintenant, on va aller voir du côté de ces observations directement de terrain. Salamata Nyandou Sido, ils ont vu le jour parce que c'est aussi un moyen de vérifier comment l'argent, par exemple, du Fonds mondial est utilisé, comment toutes ces subventions sont mises sur le terrain pour le bénéfice des personnes qui sont malades. Vous constatez un certain nombre de dysfonctionnements. On l'a déjà cité brièvement tout à l'heure. Le premier à venir à l'esprit, c'est bien sûr la rupture dans l'acheminement et dans la distribution des traitements des médicaments qui sont pourtant vitaux.
Oui, tout à fait. En fait, les ruptures de médicaments ou d'intrants sur le terrain, c'est surtout lié aussi au système d'approvisionnement. Donc, de nos pays, il y a toute la chaîne d'approvisionnement. Donc, même le politique reconnaît qu'il y a des problèmes à ce niveau. Donc, ce n'est pas seulement une question de corruption ou bien d'absence d'investissement ou bien du fait que l'argent qui est investi dans ce cadre n'arrive pas effectivement au destinataire.
Quand le gouvernement dit on reconnaît, il y a des problèmes là, donc c'est pour le Niger, c'est dû à quoi ?
Quand le gouvernement, il est même allé jusqu'à faire une étude de la chaîne d'approvisionnement tout récemment au Niger, il a eu une étude, donc ils reconnaissent qu'il y a des problèmes au niveau de l'approvisionnement en intrants, en médicaments et même au niveau des équipements sur le terrain. Donc ils ont reconnu, ils ont eu à diligenter une étude dans ce sens et il y a une refonte, une proposition de refonte même de la chaîne d'approvisionnement.
Et l'explication qui a été donnée, c'est quoi ? Parce que c'est bien de dire on reconnaît le problème, mais quand on n'explique pas ce que c'est le problème, c'est voilà.
Bon, il y a une question de moyens même, pour acheminer, par exemple, les intrants et les médicaments sur le terrain, il y a une question liée même à l'expression des besoins. Donc, si les gens...
les commandes ne sont chargés, pas faites correctement,
oui,
tout simplement.
D'exprimer, oui, s'ils ne maîtrisent pas même comment il faut faire les commandes, comment il faut...
Problème de planification. Simon Caboret, collègue d'information sur les traitements. Là aussi, vous avez ce genre de retour du côté du Burkina, des personnes qui sont en attente de traitement et qui peuvent se retrouver un ou plusieurs jours sans leurs médicaments.
Côté médicaments, actuellement au Burkina, c'est vraiment très rare. Et beaucoup plus pour les ARV, oui, c'est vraiment très rare. Les cas où nous avons, c'est beaucoup plus les médicaments contre les infections opportunistes, genre le cotrimoxazole, ou bien beaucoup plus les réactifs pour le suivi biologique. C'est là qu'on a effectivement des périodes de rupture assez importantes et bien sûr aussi les pannes d'appareils, de laboratoires, parce que le système de maintenance n'est vraiment pas performant.
Alors ça, donc, pour expliquer au grand public, c'est très important pour justement calculer la charge virale pour les personnes qui sont malades.
Oui, c'est pour calculer non seulement la charge virale, ça permet de voir l'efficacité du traitement
pour le suivi.
Mais il y a aussi le dosage des CD4 qui permettent aussi toujours de voir quelle est la réaction par rapport effectivement aux médicaments. Mais plus, tout le monde sait que les ARV sont des médicaments quand même avec quand même un certain niveau de toxicité. C'est la même chose pour tout médicament. Hein. Donc il faut toujours faire un suivi biologique pour se rassurer que des organes ne sont pas atteints. Et il y a un ensemble d'examens à faire assez régulièrement. Et malheureusement, ces examens ne sont pas toujours gratuits, même si les ARV c'est gratuit. Et il y a assez de ruptures et des pannes d'appareils qui ne permettent pas de faire ce suivi. Et malheureusement, dans ce cas, le prestataire qui soigne le fait un peu à la juger souvent, parce que malheureusement, il n'a pas les paramètres qui lui permettent d'avoir son tableau de bord pour la conduite du traitement. Et c'est ça qui est dommage, vraiment.
Ça veut dire qu'on a le produit, on a l'appareil, mais on n'a pas forcément le service quand il y a un problème pour le réparer, tout simplement.
Exactement. Souvent, il y a le réactif qui est là et il y a l'appareil qui est là, mais malheureusement, il n'y a pas... Parce que ce qu'il y a, c'est que nos systèmes d'équipement, il y a plusieurs fournisseurs. Et souvent, le fournisseur qui vient livrer l'appareil, ça ne s'accompagne pas de transfert de compétences. Donc souvent, quand il y a des ruptures, il faut faire appel au prestataire qui est à l'extérieur du pays pour venir faire l'entretien. Et malheureusement, ça aussi, ça prend du temps et ça coûte très cher pour nos pays.
Ce problème de maintenance, Foguito, est-ce que vous le constatez également du côté du Cameroun?
Oui, je crois que c'est parce que, en général, que ce soit au Cameroun ou en RCA ou en RDC ou des pays que nous couvrons avec notre dispositif, on remarque... Il y a d'abord, je prends le cas d'achat viral. C'est un appareil, je crois qu'il n'y a que dans 4 ou 5 centres dans tout le Cameroun public qui sont accessibles.
C'est sous-équipé.
C'est sous-équipé. Maintenant, pour les compteurs CD4, on n'en parle plus. Il y a un sérieux problème d'équipement. On donne l'appareil gratuit, on monte à la télé, on fait une grande discours, on remercie la firme pharmaceutique qui a donné, mais vous allez acheter ces intrants, vous allez payer la maintenance.
C'est une dépendance.
C'est une dépendance et c'est pour ça que nous, davantage dans l'observation que nous faisons, nous priorisons que nos États achètent des planteurs multifonctions qui peuvent accepter plusieurs types d'intrants pour ne pas dépendre exclusivement d'un seul bailleur ou bien d'un seul fournisseur de traitement. Mais la question d'examen de suivi biologique est fondamentale aujourd'hui parce que les antirétroviraux, on les a. Ça, il faut reconnaître que nos gouvernements ont fait les efforts qu'il faut. Même si c'est avec l'appui de la Banque mondiale, mais ils font les efforts qu'il faut pour que les traitements, quand c'est au pays, arrivent à tout le monde, au maximum de personnes. Mais ce qui fait que les usagers n'ont pas souvent accès, c'est justement les examens de suivi biologique, qui sont parfois, malgré que les gens savent que c'est pas tout le temps disponible, imposés aux patients. Et on lui dit, tant que tu n'as pas ton examen de suivi biologique, on ne continue pas. On veut qu'il donne quelque chose, parce que je veux faire le lien avec ça. Et le racket des usagers.
Mais quand vous avez connaissance de ces mauvaises pratiques, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la personne est sanctionnée ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vers elle en lui disant « on a repéré ton manège, là il faut que ça s'arrête ». Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une sanction?
La plupart du temps, on va vers elle.
Signalement, simplement.
On signale et on signale à ses supérieurs hiérarchiques. Mmh. Et voyez-vous, la rareté des personnels est aussi un autre problème. Mmh. Parce que son supérieur hiérarchique, parfois, n'arrive pas à le sanctionner parce qu'il sait que s'il le sanctionne, il n'aura plus un autre personnel.
Bien sûr.
Donc, c'est juste des intimidations et puis le faire des rappels à l'ordre puisqu'ils savent aussi qu'ils ont une carrière à protéger.
Alors, Florent Maréchal, on voit tous les aspects, hein, matériels, médicaments, humains. Et en même temps, on parle d'une question qui est très sociétale, c'est bien sûr la discrimination. Il y a aussi quelque chose de très important, on l'a dit très rapidement tout à l'heure, c'est l'accueil des personnes. Et on voit justement l'énormité de la responsabilité de ces observatoires, parce que derrière ce qu'on peut dire des simples petites observations, eh bien, il y a toute la prise en charge de la maladie qui est en jeu.
Tout à fait. Et d'ailleurs, quand on parle de couverture en traitement et de disponibilité du traitement, on a entendu par les collègues qu'il y a des pays où le traitement, il est disponible. Mais la question, et c'est pour ça qu'on parle d'accès, parce que c'est pas parce que le médicament est disponible que pour autant on y a accès. Et il y a plein d'obstacles à l'accès, que ce soit un obstacle géographique, on peut être extrêmement loin des centres urbains, là où on va avoir soit le dispositif de prise en charge, soit on vient de parler justement des examens, ça peut être très loin, problème d'accessibilité financière, et puis bien évidemment des populations qui sont discriminées de par un arsenal législatif ou réglementaire qui est aussi un frein à l'accès.
Justement, dans ces freins à l'accès, on a dit les médicaments, à part peut-être des points précis, c'est pas quelque chose de le plus criant. On dirait que c'est quoi aujourd'hui le problème numéro un si on se met sur un point de vue général? Ça va être davantage les questions de discrimination et d'accueil sur lequel il faut travailler?
C'est une vaste question. C'est difficile de répondre. Est-ce qu'il y a un problème majeur? Il y en a plusieurs, parce que encore une fois, il y a une diversité. Il y a des pays où le traitement est plus disponible que d'autres. Nous, par exemple, on va lancer un dispositif sur la région du Maghreb et du Moyen-Orient. On a une couverture en ARV qui est une des plus faibles au monde, et on a des pays où on sait qu'il y a un problème là pour le coup de disponibilité du traitement. Donc, ça dépend vraiment d'un pays à l'autre. Et d'ailleurs, c'est là aussi la richesse de ce dispositif qu'on appelle observatoire ou autre, c'est de s'adapter en fait en fonction de chaque pays, de chaque contexte. Et est-ce que ça va être une problématique majeure qui est liée à la disponibilité du traitement et donc derrière toute la chaîne d'approvisionnement, ou est-ce que c'est plutôt les problématiques d'accès au traitement, d'accès aux soins? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que c'est davantage l'un que l'autre? C'est à ça que justement servent ces dispositifs.
Vous restez avec nous, on va se retrouver dans quelques petites secondes.
Priorité santé sur RFI.
On retrouve nos invités toujours au Palais des Congrès de Bordeaux qui accueille la 9e conférence de l'AFRAVI, l'Alliance francophone des acteurs de santé contre le VIH et les hépatites. Simon Caboret, directeur exécutif du réseau pour l'accès aux médicaments essentiels RAM au Burkina Faso. Fogué Foguito, directeur exécutif de Positive Generation au Cameroun. Florent Maréchal, responsable programme santé et solidarité à Solidarité Sida. Et vous, madame Salamata Nyandou Sido, chargé du projet Observatoire communautaire sur l'accès aux services de santé au Niger, vouliez réagir à ce que l'on vient de dire à l'instant, toute cette globalité des choses qu'il faut prendre en compte pour justement améliorer l'accès aux soins.
Oui, en fait, les questions de discrimination et stigmatisation, je pense qu'elles sont omniprésentes, même si elles sont atténuées selon les pays. Donc la vraie question qu'il faut se poser, c'est la disponibilité même des services de prise en charge, parce que pour le VIH-SIDA, il faut des sites de prise en charge spécifiques, il faut un personnel formé pour la prise en charge. Donc c'est surtout ces questions-là qu'il faut se poser.
Alors ce volet très important justement dans les observations, Simon Caboret, dans ces informations collectées sur le terrain, justement tout ce qui concerne l'accueil des personnes, vous dans votre expérience, qu'est-ce qui a changé entre, par exemple, le moment où on vous a rapporté des problèmes très concrets et les mesures qui ont été mises en œuvre pour améliorer la situation?
En fait, ce qui est assez intéressant pour le Burkina et même pour le Niger, hein, je pense qu'on a assez évolué dans le type de relations que nous, acteurs de la société civile, on entretient avec les décideurs chargés de la mise en place de ces politiques-là. Parce qu'on a maintenant des communications directes qui nous permet, dès qu'on a une alerte sur un cas de rupture ou de panne d'appareil, d'interpeller directement le décideur concerné. Et très souvent, on a quand même des réactions qui permettent de corriger. Parce que comme quelqu'un l'a dit, souvent c'est pas que les ressources ne sont pas disponibles. Souvent il y a les réactifs quelque part, il y a les médicaments quelque part, il y a. Mais très souvent c'est juste un problème de coordination ou bien juste quelqu'un dans la chaîne qui n'a pas fait son travail. Et il suffit souvent d'interpeller pour que effectivement on actionne vraiment la prise de décision. Donc c'est vraiment ce dialogue politique entre maintenant le décideur et le citoyen qui permet de plus en plus de renforcer les systèmes qui sont en place.
Mais on imagine quand même que ça entraîne un rapport de force. Simon Cabouret, personne, sans être vulgaire, ne vous remet à votre place en disant occupez-vous de vos affaires.
Bien sûr, hein, je pense que quand on je me rappelle quand on démarrait l'observatoire, nous avons participé à une réunion du ministère de la Santé où nous avons présenté les résultats de nos sorties sur le terrain, mais on nous a fustigé, on nous a dit mais qui êtes-vous pour aller superviser des agents de santé, est-ce que vous avez l'autorité pour le faire? Non, et on a éclairci en disant on ne supervise pas, on observe des pratiques et on connaît les droits du patient et autres, et si ça ne rentre pas là-dedans, mais c'est un perpétuel élément de truc. Vous avez des décideurs, des prestataires de bonne volonté qui adhèrent, qui accompagnent le processus, mais vous avez toujours les brebis galeuses qui au lieu de regarder le danger, regardent plutôt le doigt qui lui indique le danger. Ça, on ne peut pas l'éviter.
Une vraie question de légitimité, hein, Foguet-Foguito. Et justement, le sérieux du travail de ces observatoires permet d'une certaine façon d'entretenir un cercle vertueux. Plus vous avez des informations de terrain qui sont fiables, plus vous pouvez vous appuyer sur vos observations pour faire un travail efficace auprès des populations.
Tout à fait. C'est la question de légitimité, on se l'est posée dès le départ. On est légitime pour qui? On n'est pas légal, mais on est légitime. On est légitime pour qui?
Pour les
usagers.
Patients.
Tant que nous, on est légitime pour les usagers, le reste, comme le disait ce mot, nous, on était convaincus que ça va venir tout seul. Parce que c'est pour eux, pour être leur voix, que nous sommes mis en mouvement. Quand vous allez vers les décideurs, ils vous disent « Ah, c'est pas scientifique. Ah, c'est pas professionnel. » Ah, une petite association, vous ne pouvez pas. De quel droit? Et nous avons le droit en tant qu'usager. Nous avons le droit en tant que citoyen. Nous avons cette légitimité même de vous demander des comptes. De vous dire si ça ne marche pas et si ça, nous on souhaitait que ça marche comme si. Et vous devez être même plus heureux d'avoir, s'il y a des dispositifs qui vous permettent d'avoir le point de vue. Puisque vous êtes là au service des usagers. Vous êtes là au service des populations. Du point de vue des populations sur les services que vous avez la prétention de leur offrir. Je sais que jusqu'ici, pour certains, ils trouvent que c'est de l'antagonisme, parce que ceux qui nous font le plus confiance dès le départ sont les partenaires techniques et financiers étrangers qui disent, oui, même sans vous financer, c'est bien, c'est important. Et puis, au fur et à mesure, vos compatriotes commencent à faire confiance. Quand je dis compatriotes, ce n'est pas les patients, mais beaucoup plus ceux qui travaillent pour nous. Quand je dis strict pour nous, c'est l'État. Mmh. Ils commencent aussi à vous faire confiance parce qu'ils voient aussi que vous les aidez à prendre les décisions idoines. C'est vrai, ils ne nous font pas ils ne donnent pas encore des médailles pour nous féliciter, pour dire vous avez bien travaillé, mais le fait qu'ils prennent en considération nos desiderata dans les demandes qu'ils font aux bailleurs de fonds et qu'ils présentent nos outils à ces moments-là comme des outils fiables, importantes, sont bons. Maintenant, nous souhaiterons que ça ne se fasse pas seulement à ces moments pour montrer aux bailleurs qu'on est en communion avec la société civile, que même quand le donateur part, que cela continue et qu'on soit respecté à sa juste valeur.
Et ces informations, toutes ces informations justement tellement importantes, Salamata Nyandou Sido, on a compris, vous les adressez des fois directement au centre de santé quand il y a des dysfonctionnements, mais vous les faites aussi remonter aux autorités locales et même aux autorités gouvernementales. Comment réagissent ces autorités à ces informations?
Il est déjà arrivé. Par exemple, l'un des plus grands hôpitaux, l'hôpital national de Niamey, donc où on a eu à faire la restitution de ce que nous avons collecté comme information. Donc, il y avait un des responsables à la réunion. Donc, il a été très conciliant. Il était vraiment. Il s'était excusé. Il avait dit qu'il n'avait pas cette information parce que les agents qui sont là ne lui ont pas transmis l'information. Donc, il a fallu l'intervention de l'OCAS pour qu'il sache qu'il y a effectivement un problème lié à une panne d'un équipement important, notamment l'appareil de dosage de CD4. Et il a eu à prendre des dispositions pour remédier à ce problème-là assez rapidement, je puis le dire.
Et vous aussi, Foguet Foguito, un bon retour sur les informations au niveau, on va dire, gouvernemental ou même au niveau des institutions chargées des questions de santé, ministère de la Santé, etc. Ils sont plutôt contents des informations que vous leur donnez ou plutôt agacés ?
Je crois que, de manière institutionnelle, on dirait qu'ils sont contents. Mais on sait bien que l'institution, c'est une machine. Il y a des hommes, il y a des individus. Il y a certaines personnes qui ne sont pas contents, ça, il faut l'avouer. Et qui trouvent qu'ils sont agacés. Quand je dis qu'ils sont agacés, ils trouvent que, comme disait Simon, on est la petite bête qui veut gratter ce qui ne va pas. Mais je crois que, jusqu'ici, pour l'autorité politique qui est à la tête du ministère de la Santé, à savoir le ministre actuel, je crois qu'il reçoit toutes les semaines nos rapports et parfois donne des recommandations, nous mettant en copie. Mais cela n'empêche aussi que nous continuons à sentir toujours pas cette forte collaboration qu'on souhaite avoir avec ces autorités-là. On sent toujours qu'il y a... C'est-à-dire, on ouvre la porte, on en trouve et on tient un peu toujours...
Un peu de méfiance.
Oui, un peu de méfiance. Mais on se dit, on est conscient qu'on est pionnier d'un processus. Peut-être après nous, d'autres personnes viendront et pousseront plus loin et puis la société souveraine va davantage continuer. Je crois que je vais embrayer sur une question qui est revenue sur les questions de droit. Parce que c'est vrai, on présente les choses en termes de disponibilité d'un appareil, mais c'est parce que les gens ont le droit à ça. Il s'agit de leur droit, le droit à la santé, c'est leur droit. C'est son droit parce qu'il est citoyen. Ça veut dire un citoyen contribue au fonctionnement de l'État en payant les taxes et pour lui et pour sa famille. Ça veut dire qu'il a le droit aussi en retour. Quelqu'un qui a les droits et l'autre aussi a les devoirs envers lui, il doit aussi le demander. Peut-être dans l'esprit qui est fait, les gens, comme c'est nouveau dans nos pays, on trouve toujours qu'il y a que nous venons en opposition, mais nous venons juste en accompagnement, en faisant comprendre aux uns aux autres qu'ils ont des droits, qu'ils doivent demander ces droits, et à l'autre qu'il a les devoirs envers cela.
Comment c'est reçu par les autorités du Burkina Faso, Simon Caboret ? On a utilisé tout à l'heure le terme de lanceur d'alerte. En Occident, en général, les lanceurs d'alerte chatouillent là où ça fait mal. Est-ce que c'est la même chose de votre côté ? Est-ce qu'on vous considère comme des empêcheurs de tourner en rond ? Ou plutôt, on vous dit, c'est bienvenu, ce que vous nous donnez, ça nous sert, c'est constructif.
Je pense que au Burkina, on a un cas particulier. On a eu la chance d'avoir eu l'insurrection populaire qui a fait partie de l'ancien régime. Et les décideurs qui sont venus après ont conscience du pouvoir des communautés, le pouvoir de l'opinion publique, le pouvoir populaire. Donc je pense que ces autorités-là ont une autre manière de voir les choses et souvent viennent vers nous par elles-mêmes pour...
Seraient plus réceptives de la base.
Exactement. Tout à fait. Moi, je me rappelle quand le président a adopté la gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans, ils nous ont contactés, ils ont dit oui, est-ce que votre dispositif peut nous permettre de suivre ? Donc, je pense que quand même au Burkina, on a cette situation particulière qui fait qu'on c'est beaucoup plus simple qu'au Niger et c'est encore plus simple qu'en Guinée, par exemple.
Florent Maréchal, Simon Caboret citait à l'instant la santé maternelle et infantile. On a parlé tout à l'heure du paludisme, on a parlé de la tuberculose. Est-ce que le fait d'étendre justement ces dispositifs à d'autres pathologies, c'est aussi pas un bon moyen, ou est-ce que c'est dangereux de banalisation du sida, de dire c'est une maladie comme les autres et qui a donc le droit comme les autres maladies aussi d'être prise en charge ?
Je suis pas sûr que ça participe forcément de la banalisation de l'épidémie. Je pense que la lutte contre le sida, depuis son origine, a montré, et notamment on parlait de l'expertise communautaire, que toutes les avancées qu'il y a pu y avoir dans la lutte contre le sida, dont une grande partie a été portée par les associations, a servi pour plein d'autres pathologies, plein d'autres services. Et je pense que le fait d'élargir, quand on essaye de faire justement remonter des informations venant des usagers, non pas pour être dans une défiance vis-à-vis des pouvoirs publics, mais pour améliorer, encore une fois, dans l'intérêt des bénéficiaires, ce qui va servir pour le VIH va servir pour d'autres pathologies. Et donc c'est bien de l'élargir. Et c'est pas pour autant qu'on va banaliser. Au contraire, on l'a vu, et ça fait 20 ans qu'on le montre, que les efforts qui ont été menés pour une épidémie en a servi pour d'autres, et c'est pas parce qu'on va élargir qu'on va pour autant banaliser. Donc c'est important, au contraire.
Malgré tout, quand on prend en charge les personnes touchées par le VIH, il y a toujours cette question de stigmatisation. Donc il faut des dispositifs particuliers aussi pour l'accueil des personnes. On revient dessus, et un des dispositifs, c'est justement d'être, on peut dire, noyé dans la masse, ne pas être forcément repérable, parce que si on est repérable de loin, ben on va pas aller se présenter forcément au médecin. Comment, dans les différents pays, dans les différents cas, on peut dire les usages dans les centres de soins pour faciliter justement cette prise de conscience, de dire ben, si j'ai un problème de santé, même si j'ai le sida, ben, je vais aller me faire soigner. D'abord avec le Niger, avec vous, Salamata Nyandou Sido.
Oui, pour éviter les questions de stigmatisation liées à la maladie. Donc, il y a toujours un médecin présent, le médecin qui reçoit les patients avec les autres patients, pas que les patients du VIH. Il reçoit en même temps les autres patients. Donc, ce qui fait que le patient atteint de VIH, il a accès aux soins sans que quelqu'un sache qu'il est venu pour telle maladie spécifique. Et quand il accède au médecin pour lui remettre les ARV aussi, ils ont pris soin d'utiliser des sachets plastiques noirs. Dans nos pays, ça s'utilise beaucoup. Je crois que ça vient du Nigeria. Donc, on enlève les emballages, on leur met les médicaments dedans pour qu'ils sortent. Simon, donc, ni vu ni connu, en fait.
Simon Caboret, des dispositifs, des stratégies similaires du côté du Burkina, justement, pour ne pas être, on va le dire, hein, montré du doigt.
Je pense que ça va dans le même sens. C'est comment est-ce que on essaie d'intégrer au mieux, que ça soit les consultations, que ça soit la dispensation des ARV, comment les intégrer au mieux. Bien sûr que l'agent de santé qui est là et qui connaît le statut aura une attention particulière, parce que prendre les ARV, c'est pas la même chose que prendre des médicaments contre le paludisme. Il mettra peut-être plus de temps pour mieux expliquer, sur assurer que le traitement est suivi. Mais vraiment, l'approche, c'est vraiment l'intégration. Et quelque chose que nous recommandons, et malheureusement qui n'est pas tout à fait encore très développé dans les politiques publiques, c'est vraiment l'écoute des patients. C'est les patients qui peuvent le mieux dire comment est-ce qu'eux, ils pensent que le service doit être organisé pour leur permettre d'être vraiment tout à fait à l'aise. Il faut qu'on ait des services d'écoute des patients pour essayer d'intégrer au fur et à mesure la manière dont nous faisons. Mais il ne faut pas que nous décidions par rapport à nous, nos contraintes d'agents de santé, nous décidions par rapport à nos contraintes de comment est-ce qu'on fait, en pensant que nous faisons ça pour le bien des patients. C'est comme on dit, c'est tout ce que vous faites pour nous, mais sans nous, c'est contre nous. Donc il faut que vraiment on apprenne à intégrer les patients dans l'organisation des soins.
Est-ce qu'on peut même aller plus loin en utilisant en quelque sorte ces patients comme des collecteurs ?
Bien sûr, on le fait déjà, parce que le plus souvent, les accompagnateurs psychosociaux dont on parle, c'est très souvent des personnes qui sont concernées par la maladie, donc qui sont, au fait, par l'expérience qu'ils ont de la maladie, accompagnent, mais également le dispositif, comme on le dit, qui permet de signaler, comme il l'a dit, les sentinelles et autres, c'est très souvent ces personnes-là.
Foguito voulait réagir.
Oui, je voulais réagir surtout sur le fait d'étendre les services. Je crois que ça fait aussi partie d'une réforme politique, et on peut dire que c'est une victoire aussi de nos dispositifs qui ont permis de démontrer que le fait de concentrer la prise en charge de l'infection à VIH à un seul service dans les formations sanitaires n'était pas productif. Donc, en temps d'attente pour l'usager, pour que ce service... Le médecin n'est pas dû, il reçoit 500 personnes par jour, lui seul. Alors, je suis très content que les autorités dans mon pays aient pu étendre la prise en charge de l'infection à VIH à tous les services. Vous entrez en radiologie, on peut vous faire dépister. Vous entrez en OL, quel qu'il soit, vous pouvez vous faire dépister. Et justement, a aussi étendu dans l'ensemble d'un certain nombre de formations sanitaires au fur et à mesure, on étend. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est la disponibilité et la capacité des personnels de santé à pouvoir être en mesure d'apporter la réponse. Il faut aussi former le personnel pour qu'elle soit en mesure de répondre. Parce que si le patient qui habite à 500 km apprend qu'à côté de lui, on peut déjà lui faire la prise en charge de l'infection AVS, ce n'est pas seulement dispenser le médicament, c'est aussi savoir faire le pré-counseling, le post-counseling, le mettre sous traitement, l'annonce et tout ça. Alors, il faut bien que ce soit aussi le plus démocratiquement vulgarisé. Donc, c'est aussi une
question, un vrai problème de compétences.
De compétences qu'il faut accompagner. Et je crois qu'il y a, on est sur le chemin au Cameroun, et c'est ce qu'on peut apprécier. Quand vous allez à l'hôpital avec votre enfant, vous trouvez un dysfonctionnement, comme il dit, les centres d'écoute, vous appelez le numéro, vous trouvez soit l'agent de santé, soit l'APS, vous lui donnez l'information, il relaie, ou bien vous, vous faites le relais d'information directement.
Parce il y a des centres de soins ou il y a des boîtes où les gens disent voilà suggestions, recommandations, mais c'est pas pareil parce que c'est pas forcément suivi des faits de la même façon.
Ces boîtes-là ne sont même pas souvent ouvertes. Souvent elles sont ouvertes un an ou trois ans après. Parfois elles sont vides. Donc on sait que souvent c'est pas dépouillé de manière objective.
Il y a des lézards qui nichent dedans.
Voilà. Mais ce qu'on veut dire c'est quoi ? Notre but c'est d'amener les usagers. C'est pour ça qu'on ne veut pas dire patients. On dit des usagers des services de santé. Parce que la santé, ce n'est pas seulement sur le plan médical, c'est aussi l'information. La santé sexuelle et reproductive, par exemple, les gens qui vont au planning familial, ils ne trouvent pas le service, c'est indisponible. C'est autant de choses que nous ont les usagers des services de santé qui sont parfois les accompagnateurs. Vous savez, dans nos pays, on va très difficilement à l'hôpital seul. On a toujours quelqu'un qui nous accompagne. C'est eux tous sont des usagers pour nous et ils peuvent justement, ils ne sont pas des collecteurs toujours, ils sont des usagers, des citoyens. Et jouant leur rôle citoyen, ils vont revenir vers nous, nous dire « Ah, il n'y a même pas de service PTME ». Dans telle formation sanitaire. Ah, les questions sur la santé sexuelle reproductive, je voudrais savoir comment on fait le planning familial. Je n'ai trouvé personne où il n'y avait même pas ça dans cet hôpital.
PTME, programme de transmission de la mère à l'enfant, juste pour décrypter.
Donc, c'est un peu dans cet aspect que nous voyons les gens, pas en termes de, entre guillemets, collecteurs, mais des citoyens qui exercent leur citoyenneté.
On arrive à la conclusion de cette émission. Vous allez, Florent Maréchal, bientôt entamer ce travail. Vous avez entendu pendant toute une journée de travail, de terrain, avec des retours d'expérience. Vous en attendez quoi, vous, de cette mise en commun et peut-être surtout de tout ce qu'on a entendu à travers ces différentes expériences? Est-ce qu'il y a une idée, un trait commun qui ressort de tout ce que vous avez entendu?
L'engagement de et la volonté de d'associer justement les usagers, comme vient de le dire Foguet, dans les dispositifs. Après, pour répondre à la question, pour nous ça a été extrêmement enrichissant cette journée, parce que effectivement on a essayer de capitaliser un petit peu sur les différentes initiatives et voir un peu à la fois ce qui fonctionne très bien, les difficultés, les écueils à éviter. Donc pour nous forcément c'est très enrichissant, que ce soit dans la mise en place, dans le dispositif de collecte, dans l'analyse, dans comment partager l'information auprès des décideurs, quelle posture adopter. Toutes ces questions-là pour nous sont extrêmement importantes. Donc c'était une première étape et j'en profite pour saluer l'initiative 5% qui a organisé cette journée de travail qui était très enrichissante. Donc je pense qu'il y aura d'autres journées de ce type, mais en tout cas quand on lance des observatoires, bénéficier de l'expertise et de l'expérience des autres, c'est forcément enrichissant.
Merci beaucoup. Notre émission touche à sa fin. Priorité santé à Bordeaux à l'occasion de l'AFRAVI avec le soutien d'Expertise France à travers l'initiative 5%. Merci à tous d'avoir participé à cet échange. À vous Salamata Diandou Sido, chargée du projet observatoire communautaire sur l'accès aux services de santé au Niger. À vous Simon Caboret, directeur exécutif du réseau pour l'accès aux médicaments essentiels, le RAM au Burkina Faso. Foguet Foguito, directeur exécutif de Positive Generation au Cameroun. Et merci à vous Florent Maréchal, responsable programme santé et solidarité à Solidarité Sida, avec ce grand événement que vous préparez pour les 20 ans de Solidays. Ça va être à Paris, 22 au 24 juin. Je fais de la publicité en même temps. C'est gratuit, mon
enfant.
150 artistes réunis sur l'hippodrome de Longchamp pour recueillir donc des dons et lutter contre le sida. On l'a compris donc, y compris sur le terrain. C'est la fin de ce numéro de Priorité Santé enregistré à Bordeaux à l'occasion de l'AFRAVI, émission préparée et réalisée par Ophélie Lassène et Steven Elsley. Demain, derrière ce micro, vous retrouverez Igor Strauss et le docteur Catherine Solano, sexologue, pour répondre à vos questions. Le numéro de téléphone de l'émission, c'est le 33 84 22 75 75. On attend toutes vos questions. À demain.
C'était Priorité Santé, avec Sunwa Assurance qui vous recommande d'avoir une épargne sécurisée pour assurer vos projets en toutes circonstances. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.